continentale era composé. Justifier, pour expliquer aussi la démarche de cette souda de mitzvah. D'où la chaîne Kitov qui, le Olam Chasdo, remercions Hachem en reconnaissant sa bonté, car sa générosité est éternelle. On va se contenter dans un premier temps de cette façon. Il me semble, c'est mon cher, c'est qui parle, qui me semble rigoureusement juste. J'ai eu la chance de connaître un homme qui, suite à un accident, un AVC, il me semble, scandait une phrase unique qui est Olam Chasdo. Car sa générosité est éternelle. Il l'a scandé à l'infini en la répétant encore et encore, comme si tout ce que ce monsieur, Kanoli Bracha, avait eu à dire pouvait trouver une des facettes du Chesed d'Hachem dans laquelle il pourrait trouver à s'exprimer. Un peu comme la manne qui prenait le goût qu'on voulait bien lui donner selon le désir du consommateur tout en gardant son aspect. La Gemara dans Brachot Nundale Amudvet nous dit Arbat Sekhim Leodot, il y a quatre personnes ils sont tenus d'exprimer leur reconnaissance. C'est-à-dire ce qui, aujourd'hui, pour nous, est la bracha de la Birkat HaGomel. Les quatre sont donc le voyageur par voie maritime, qui est arrivé à bon port, le voyageur dans des régions désertiques, le malade qui se relève de sa maladie, ainsi que le prisonnier qui est sorti de prison. Le point commun de ces quatre personnages, c'est le temps nécessaire à la prise de conscience que je suis en situation de danger. Comme pour dire qu'on ne prend conscience du chesed d'Hachem que par la longue attente, on est en danger, précédant la Yeshua d'Hachem, qui par définition, elle, est Kerefaïn, elle est un clin d'œil en fait. Selon cette analyse, La phrase serait qu'on ne fait la Birkat HaGomel que dans de pareils cas. Il n'est pas dans un accident de voiture où la prise de conscience est plutôt postérieure à l'accident sur le modèle à quoi est-ce que j'ai échappé. La Birkat HaGomel n'est donc pas d'actualité dans mon cas. Mais cela ne nous exempte pas d'exprimer notre reconnaissance à Hachem, Odou Hachem Kitov, qui le Olam Chasdo, car sa générosité est éternelle. Le mot le Olam représente l'infini dans le temps, mais il représente également l'aspect caché de la Hanaga, de la direction du monde, la Hanaga de Chesed d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Avec cette racine commune de Olam, Ne'elam, qui veut dire caché, dissimulé. Comme pour dire que l'aspect éternel de sa générosité n'est rendu possible que par sa discrétion. Modèle à Avar, ou mitpalel al Atid. Être reconnaissant pour le passé et prier pour le futur. Nous avons tardé à remercier Akadosh Baruch Hu pour sa bonté, parce que nous imaginions à tort qu'il faudrait attendre d'être en situation de pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu sur tout, alors que la Hoda n'est qu'une étape dans le processus de vie, de la vie qui continue, modé à la Hava ou mitpalel à la Atid. On reconnaît tout ce qu'on doit concernant ce qui s'est déjà fait, et on prie pour que le futur soit de la même veine. Yératson, que nous soyons très prochainement mechouyavim, obligés de faire une bracha de Agomel. Amen. Yeah. Dernier, M'lavé Malkam, on va parler de sujets qui sont les sujets dont on traite dans la Kriyata Torah en ce moment. Tout le monde sait que le Mishkan, que le tabernacle, le temple en quitte en quelque sorte, répare le Hegel, répare la faute du Vaudor. Non, évidemment, c'est en quoi est-ce que ce Mishkan répare la faute du Hegel. On va essayer d'avancer un peu dans la réponse à cette question. D'où est-ce qu'on sait que ça répare vraiment ? Il y a un Midrash qui rapporte la chose suivante. Il s'agit d'un jeune homme, c'est une parabole, un jeune homme qui entreprend un voyage et il arrive à un endroit où on collecte la tzedaka. Il arrive à un moment et ils sont justement en train de collecter, de ramasser la tzedaka. Et il donne tant et plus, au point qu'on doit l'arrêter, on dit ça suffit, tu as donné assez. Et puis il continue son voyage, il arrive dans une ville où on collecte pour construction et le fonctionnement d'un théâtre. Alors il donne tant et plus, qu'on doit l'arrêter en disant tu as donné assez. Et le Midrash dit, il en va de même avec le Hegel, avec le Vaudor. Les Bnei Israël ont donné tant et plus, il a fallu leur dire d'arrêter de donner. Et puis ensuite, à la collecte pour construire le Mishkan, les Bnei Israël ont donné tant et plus, il a fallu leur demander d'arrêter de donner. Alors, dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu a dit que l'or du Mishkan soit une capara pour l'or du Vaudor. Ici, on voit justement explicitement cette notion de capara. Ensuite, que ce Midrash n'est pas sans difficulté. Au début de la paracha de Vayakhel, on a lu ce matin, Moshe Rabbeinu, qui a donc convoqué la totalité du clan Israël, hommes, femmes, enfants, enseigne d'abord le Shabbat, et puis ensuite le Mishkan, la construction du Mishkan. En faisant cela, il a inversé l'ordre. Parce que, auparavant, quand Moshe Rabbeinu a enseigné ces deux choses, il a enseigné d'abord le Mishkan, et puis ensuite le Shabbat. Et donc on a une espèce de chiasme, ça veut dire, on a au début, on a Mishkan puis Shabbat, puis ensuite, Mishkan puis le Shabbat, mais pardon, et le Shabbat, si vous voulez, est enseigné Shabbat, comme je vous ai dit, Shabbat, et dans la paracha de Vayakhel, la dernière paracha, Shabbat est enseigné avant le Mishkan. Donc on a un chiasme, Mishkan, Shabbat, et Shabbat, Mishkan. Et au milieu, ce qui sert de miroir en quelque sorte, qui va renverser la situation, c'est la faute du Hegel. Le Hegel, le veau d'or au milieu, renverse l'ordre comme voulant dire ici que la crise, en fait, c'est le veau d'or, et à partir du veau d'or, il faut inverser cet ordre. Il faut mettre le Shabbat en premier, il faut dire que le Shabbat est en premier, et que le Mishkan ne pourra pas se construire le jour du Shabbat. Shabbat, puis le Mishkan. C'est-à-dire, en fait, le problème du temps, sanctification du temps, avant la sanctification de l'espace. Le Mishkan, c'est un espace consacré à la présence divine dans le monde. Rashi explique que le peuple était ridoufine, ils étaient quasiment fascinés par le travail du Mishkan. Et qu'il y avait un risque dans cette fascination qu'ils en viennent à oublier le Shabbat. Et donc le Passouk vient dire d'abord garder mon Shabbat, c'est la première chose. Et dans le cadre de Shabbat, c'est-à-dire dans le cadre d'un monde où il y a un temps qui est consacré à Hachem et un temps dans lequel il n'y aura aucun travail, alors vous construirez le Mishkan. Le verbe, le substantif qui va avec, qui est utilisé dans la création du monde, de notre monde concret, c'est la Asiya. Et c'est le principe du Mishkan. Ve'asu li Mikdash. Ils me feront, ils me fabriqueront Asiya, le Mikdash. C'est un principe de construction, vient donc s'inscrire à l'intérieur des interdits du Shabbat. C'est-à-dire, les interdits du Shabbat sont là, ils sont premiers, et on ne construira que quand les interdits du Shabbat ne s'appliqueront pas, c'est-à-dire en semaine. En fait, Shabbat est donc, apparaît comme une non-assiya, comme un non-faire, un temps où on ne fait pas, où il n'y a pas à faire. C'est une condition, en fait, dans cette assiya, dans cette non-assiya, par exemple, qui est utilisée, donc, qu'on pourrait utiliser pour caractériser le Shabbat, en fait, ça ne va pas très loin, dans la mesure où, pour le Shabbat, la Torah elle-même utilise l'expression « la asot est à Shabbat », de faire le Shabbat. Donc, la assiya est également utilisé pour le Shabbat. Donc, l'assiya dans l'espace, si vous voulez, en fait, avec des gestes concrets de construction, et puis il y a une assiya du Shabbat, l'assot est un Shabbat, et si l'assiya, si le faire est une condition pour la créativité, si vous voulez, alors ça veut dire qu'il y a deux sortes de créativité. Il y a celle qui s'exprime et qui permet de construire le Mishkan, et puis il y a une autre créativité qui est celle du Shabbat. L'Asot est un Shabbat, faire le Shabbat. Le Sforno sur place dit, le septième jour, le jour du Shabbat, il n'y aura pas de travail du tout, même pas le travail de Mishkan, c'est-à-dire même pas un travail prescrit par Hachem. On aurait évidemment pu penser que le travail qui est interdit, c'est un travail que l'homme fait pour lui-même, à sa propre initiative et pour lui-même. Et que, par conséquent, un travail comme celui de construire le Mishkan ne tombe pas du tout sous le coup d'un interdit du travail. C'est pas un travail que je fais parce que j'ai décidé de le faire, et ça n'est pas un travail que je fais pour mon intérêt personnel. C'est prescrit par Hachem pour permettre à Hachem de résider dans le monde. Quand Moshe Rabbeinu présente les choses, toujours sur l'ordre d'Hachem bien sûr, mais il présente les choses, ce problème du travail ou du non-travail de Shabbat, du travail de Mishkan et du non-travail de Shabbat, Moshe Rabbeinu utilise, introduit quelque chose. L'otevahu esh bechol moshvotechem. Vous ne fabriquerez pas de feu, vous ne ferez pas de feu dans toutes vos résidences. L'otevahu esh. Qu'est-ce que c'est exactement ce lotevar ou esh? C'est interdit de faire du feu par rapport à tous les travaux qui sont interdits le Shabbat. Alors juste une petite parenthèse sur ces travaux-là. Tout le monde sait qu'il y a 39 travaux qui sont interdits Shabbat. D'où est-ce qu'on sait qu'il y en a 39? C'est une déduction assez acrobatique à partir du passage qui dit Ve'ele hadvarim, et voici les choses qu'il faut faire, qui quand on les lit pour Shabbat sont justement les choses qu'il ne faut pas faire. Et de la juxtaposition, donc on apprend 39 en vérité parce que c'est marqué Ve'ele, Ve'ele ça fait 36, et disons il y a trois lettres dedans, il y a d'autres combinaison. C'est assez acrobatique pour arriver à 39. Bon, alors on arrive à 39. Et maintenant, quelles sont les melachot qui sont interdites? Alors, de la juxtaposition, justement, du Shabbat et du Mishkan, on va prendre comme modèle les travaux qui sont nécessaires à la construction du Mishkan. Pourquoi cela? Parce que le Mishkan, c'est en quelque sorte un tableau de bord du monde. C'est-à-dire que dans le Mishkan, on va agir et cette action va avoir un impact sur le monde. Évidemment, les connexions dans le tableau de bord correspondent au monde, aux connexions qui existent dans le monde. Donc, la construction du Mishkan, c'est en quelque sorte une construction du monde. On doit savoir construire le monde pour pouvoir construire le Mishkan, c'est ce qu'on va dire de Bezalel, plus tard le constructeur du Mishkan. Donc voilà, on a ces 39 travaux. La liste, évidemment, des 39 travaux ne figure pas dans la Torah, ça se saurait, elle n'est pas là. Donc c'est les Chachamim qui ont réussi à définir ces 39 travaux. On a aussi utilisé des travaux qui sont nécessaires à la fabrication du pain en tant que la nourriture fondamentale. Voilà, on a ces 39 travaux. Et là maintenant, on voudrait savoir, étant donné que Moshe Rabbeinu, quand il parle, quand il présente l'interdit, il ne présente que, disait Moshe Rabbeinu, c'est bien sûr Hachem qui le lui a ordonné, mais quand c'est marqué, il appelle Moshe. Il ne présente que l'Otevahu Eish. Vous voudrez bien savoir quel est le statut, quel est le rapport entre l'Otevar ou Esh d'un côté et d'un autre côté les 39 travaux. Alors effectivement, dans la Gemara, il y a deux grandes opinions à ce sujet. L'Otevar ou Esh, c'est ce qu'on appelle un lav, c'est-à-dire c'est un interdit qui est formulé par un lot. Lot a assez, ne fait pas. Il ne fait pas. Un interdit de faire. Dans le Passouk, il est aussi marqué l'otase melacha. Des fois, c'est marqué l'otase kol melacha. Tu ne feras aucun travail. Et puis, si tu fais les travaux, alors tu es passible de mort. Or, dans cet interdit de l'Otevarouesh, il n'y a pas de peine de mort. Et donc il y a déjà, dans cette melacha de l'Otevarouesh, il y a déjà une différence avec les autres travaux. Les autres travaux, si on les fait Shabbat, les passibles de mort, il y a des conditions bien entendu. Mais donc ça veut dire l'importance du travail en question, alors que le travail du feu, si vous voulez, le fait de faire du feu, n'est pas passible de mort. Alors peut-être que on vient seulement nous dire, une opinion consiste à dire, la Torah ne veut que nous dire cela. Elle veut nous dire, il y a une exception, il y a un travail qui lui n'est pas sanctionné de la même manière. On peut le comprendre en se disant que finalement le feu n'est pas un travail en soi, c'est un travail qui est au service d'autres travaux. La plupart des travaux sont des travaux qui auront besoin du feu, mais le feu c'est pas une finalité dans le feu le temps. Il est au service de quelque chose d'autre. Alors on pourrait penser que c'est pour ça qu'il n'est pas sanctionné aussi sévèrement qu'un travail qui est terminé. Et puis il y a une autre opinion qui consiste à dire, en utilisant des règles herméneutiques en fait, que d'avoir singularisé une melacha, un des travaux, et d'avoir dit que sur ce travail, que ce travail-là en lui-même est interdit, ça vient nous dire quelque chose de chacun des 39 travaux. Parce que les 39 travaux, c'est vrai, on en a trouvé 39, mais ils sont unifiés parce qu'ils forment la melacha qui consiste à construire le Mishkan. Et ces 39 travaux sont un grand travail, en quelque sorte, qui est la construction du Mishkan. Donc on pourrait penser qu'il n'y a de transgression que si on fait les 39 travaux, c'est-à-dire si on construit le Mishkan, si on construit l'équivalent du Mishkan. Et donc là, on vient nous dire qu'il y a un travail qui est considéré comme un travail qui est un travail interdit, alors qu'il n'y a qu'une seule melacha, il n'y a que l'Otevarouesh. Alors ça sert de modèle pour nous dire que chacun des 39 travaux est en soi, s'il est fait Shabbat, une transgression. Et qu'il y a 39 possibilités de transgresser le Shabbat. Ça ne changera évidemment pas par rapport à une éventuelle peine de mort, puisqu'on peut, contrairement à ce qui se passe dans certains jeux, on n'a qu'une seule vie. Mais ça sera important dans les cas de Shogeg, dans les cas où on transgresse par inadvertance, où à ce moment-là, il y a des corbanotes à apporter, etc. Ça, c'est une parenthèse pour la mlacha les mlachot de Shabbat. Le feu, dit le Sforno, c'est une espèce de précondition à presque tous les travaux vraiment créatifs. On va appeler créatifs les travaux qui servent à la construction du Mishkan, qui correspondent aux travaux qui sont réputés avoir été les travaux de construction du monde. Maintenant, bien sûr, il y a dans tout ce sujet-là une métaphore qui est le feu comme métaphore. C'est-à-dire, dont on a parlé, cet élan qu'ont eu les Bnei Israël, tant dans la construction du veau d'or que dans la construction du Mishkan, cet élan, ils ont apporté avec feu, en quelque sorte. Il y avait une notion de feu dans la démarche. Puisqu'on a dit que il fallait limiter ce feu-là aussi, il fallait donc le limiter. Il fallait limiter la générosité. Parce que la générosité sans limite, elle débouche sur n'importe quoi. La générosité, elle aussi, doit être limitée. le chesed d'Hachem, il est sans limite, parce que ce chesed-là, il peut être sans limite, puisque c'est Hachem qui le gère. Mais lorsque l'homme fait du chesed, il doit savoir jusqu'où faire du chesed. Il y a des limites à mettre au chesed. Le chesed excessif existe aussi. D'une certaine manière, au niveau de la mida de chesed, il a fallu limiter la mida de chesed d'Abraham Avinu par la mida de din, voura de Yitzhak Avinu, et l'idéal, la perfection, c'est la perfection de Yaakov Avinu qui fait, je ne sais pas un compromis, mais qui mélange, fabrique un état dans lequel il y a du chesed et il y a en même temps de la gvoura. Et ça, dit Nefesh HaChaim, c'est la situation la plus parfaite, elle est supérieure à la situation des extrêmes de chesed et de gvoura. Cette situation mixte en fait, situation où il y a les deux choses, c'est le summum. Si on revient sur ce midrash avec lequel j'ai commencé, il y a une première chose, c'est que l'ordre est inverse. Les Bnei Israël ont fait le Hegel, ils ont fait la chose négative d'abord, puis ensuite ils ont construit le Mishkan. Donc on peut comprendre que le Mishkan vienne réparer ce qui a été mal fait au moment du Hegel. Mais le jeune homme en question, il a d'abord donné la tzedaka sans limite, et puis ensuite, il a subventionné le théâtre sans limite. Donc lui, il n'a rien réparé. Bon, l'ordre n'est pas le bon. On se met d'accord sur la valeur du théâtre. L'ordre n'est pas le bon. Mais c'est Hachem qui vient, qui intervient ici dans la situation et qui dit il y a un processus de réparation. Et semble-t-il, ce processus de réparation, il est à l'œuvre, même quand les choses ne sont pas faites dans le bon ordre. En d'autres termes, il faut sortir et monter à un niveau tel que la chronologie n'a pas d'importance et qu'on peut faire le bien avant d'avoir fait le mal et que le bien en question a une valeur de compensation, de réparation pour le mal qui a été fait après. C'est un énorme chidouche que nous dit ce midrash. Il est en train de dire que la différence entre la tzedaka et le théâtre et la différence entre le Hegel et le Mishkan, cette différence, Hachem suggère qu'il y ait une possibilité de récupération, comme si on avait fait le Mishkan et qu'ensuite on a fait le Hegel, le Mishkan est déjà réparateur pour le Hegel aussi. D'autres termes, construire le Beit HaMikdash et puis ensuite mal se conduire, la construction du Beit HaMikdash devrait avoir un effet réparateur par rapport aux fautes qui ont été commises après ce midrash-là. On sait bien que ça n'a pas fonctionné tout à fait comme ça. En fait, ce qu'on veut dire ici, c'est que la générosité, elle peut construire des mondes très très différents quand elle est sans limite. Mais en réalité, est-ce que ce feu est indiscernable de cet autre feu? Comment est-ce qu'il faut voir tout ça? Qu'est-ce que c'est que cette pseudo-équivalence en réalité? Est-ce que vraiment elle existe? Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que le monde est là pour être, on pourrait dire, reformulé en tout cas. Hachem indique que c'est possible. Dans la parabole, on a dit que quelque chose qu'on ne peut pas dire directement, c'est toujours comme ça, et les paraboles dans le Midrash, elles servent à dire des choses qu'on ne peut pas dire directement. Sinon, elles ne serviraient à rien. Et ce qu'on veut dire ici, c'est que, à la limite, que le Mishkan est précédé en parole, ou suivi en acte et en parole, le Hegel, ça ne change rien. C'est-à-dire, en même temps, d'autres mondes sont aussi moins positifs, évidemment, sont aussi possibles, avec la même énergie en quelque sorte, la même générosité du peuple. Le feu et l'or. La générosité du peuple, c'est manifestée par l'or qu'ils ont apporté et le travail du feu qui a été nécessaire pour produire tant le veau d'or que le Mishkan, puisqu'il a fallu évidemment utiliser le feu. Cette idée que le monde est là pour être formulé, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas se tromper, le monde n'est pas là pour rester tel quel, immuable. Il est fait pour être changé. Il est fait pour être transformé. Le Ramban et d'autres considèrent que Moshe Rabbeinu a reçu l'ordre concernant la construction du Mishkan quand il était au Sinaï, la première fois. Quand il est descendu, comme les Bnei Israël avaient fait le veau d'or, il ne leur a pas communiqué l'ordre de construire le Mishkan. Mais l'ordre lui a été donné avant la faute du Hegel. Donc la construction du Mishkan n'était pas initialement prévue pour... Enfin, n'était pas quelque chose qui venait après que les Bnei Israël aient manifesté qu'ils avaient besoin de quelque chose pour remplacer Moshe Rabbeinu, que ce soit un fétiche ou je ne sais pas quoi. Non. Le Mishkan était donné a priori, sans référence à une faute quelconque. Concrètement, Moshe Rabbeinu ne leur a pas parlé, parce qu'il ne pouvait pas leur en parler, ils venaient de se disqualifier. Et il ne leur en a parlé que lorsqu'il est descendu du Sinaï, pour la deuxième fois, après Kippour, à ce moment-là, il leur a parlé du Mishkan, mais les ordres concernant le Mishkan, Moshe Rabbeinu les avait reçus avant le Hegel. C'est ce que je vous dis, que ce que dit le Midrash, que le Mishkan ait précédé le Hegel, en parole, ou bien qu'il l'ait suivi d'après les autres qui considèrent que le Mishkan est en fait quelque chose qui ne nous a été donné. Parole est effectivement concret, en acte, qu'après la faute du veau d'or. Mais peu importe, le Midrash dit que, je vous dis que les deux fonctionnent. C'est pas important. Dans le monde reconstruit, reformulé, la chronologie n'a pas d'importance. Si maintenant on s'occupe du Hegel et du Mishkan, je reviens le Shabbat, il y a un Midrash qui dit que quand Bezalel, qui est le constructeur du Mishkan, quand Bezalel a construit le Mishkan, tout le monde était admiratif de ce que Bezalel n'était pas un artisan super doué. C'était quelqu'un qui savait tout faire. Il n'était pas un spécialiste de ceci ou de cela. Il savait tout faire. Et à un niveau tel qu'on ne peut même pas se l'imaginer. Et donc, le Midrash raconte que tout le monde était admiratif de de Betzalel extraordinaire, etc. Et le Midrash dit qu'Hachem intervient et dit, mais Betzalel, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce qu'il veut dire Hachem quand il dit c'est moi qui l'ai fait? En fait, on est. Hachem ne dit pas dites ma louange à la place de dire la louange de Betzalel. Il dit seulement c'est moi. Qu'est-ce que c'est que cette insistance du maître à prendre la place de son étudiant, le mérite de son étudiant? Ce que ça veut dire, c'est la chose suivante. Hachem veut dire par là, c'est que le don de Betzalel, vous le regardez comme s'il était super doué, extraordinaire, formidable. C'est complètement faux. Le don de Betzalel vient, il a une source, ce don, et la source est divine. Et si vous ne comprenez pas cela, alors vous n'avez rien compris à ce qu'est Betzalel. C'est pas du tout quand quelqu'un est doué, ça vient aussi d'Hachem. Mais si ce type de don-là, ça s'appelle du date, ce don-là de Betzalel, c'est totalement divin. Ça n'a... Donc, ça ne peut pas faire l'objet des louanges que vous avez utilisées. Les louanges que vous avez utilisées, c'est les louanges qui vont pour un artisan super doué. Mais ce n'est pas du tout adéquat. C'est moi. Donc, ça veut dire, reconnaissez seulement une seule chose, ça c'est divin. La source du don de Betzalel est divine. Le travail avec le feu, le modèle, en fait.
Parce que c'était
en réalité.
C'était pas évident. C'était pas évident. Que la source du don de Betzalel.
Le peuple s'est trompé, en tout cas. Le travail avec le feu consiste à déformer et à reformer des objets. Le peuple acclame donc Betzalel en tant que c'est sa sagesse, son savoir-faire humain donc. Et le passage dit clairement que Hachem a empli Betzalel de Chokma, de Tvuna, donc de Bina, de Dat. Ce Dat, cette connaissance, le peuple, lui, s'est arrêté avant ce dernier terme. Il n'a pas utilisé le terme de date dans la louange, mais Hachem transforme dans ses propres termes, il dit, c'est moi. Et Hachem indique que la source divine du don que d'autres donc regardent comme le fruit peut-être de l'étude, de sagesse, ou bien d'une puissance naturelle, la compréhension, la bina de Betzalel. Le terme qui manque, quand le peuple regarde, c'est dat, c'est discernement. C'est lui qui indique ce mystère qu'il y a, qui ne s'entend que comme quelque chose qui a été enseigné directement par Hachem. Personne ne peut enseigner cette chose-là. En fait, quand on regarde, le veau d'or, il émerge de l'or, et du feu. Lorsque Betzalel construit le Mishkan, essentiellement c'est avec l'or et le feu, il utilise quasiment la même chose, mais c'est lui qui l'utilise, c'est l'homme qui l'utilise, c'est l'homme Betzalel, inspiré comme on a vu par Hachem. Mais les deux choses sont, justement, comme c'est totalement incompréhensible, cette capacité de Betzalel, exactement comme il est totalement incompréhensible, ce veau d'or-là qui émerge. On n'a pas sculpté ce veau d'or, il a émergé comme ça. accusé un peu. Jérémie l'accuse. Pourquoi est-ce que tu as fait ça au peuple ? Aaron refuse d'une certaine manière son implication dans l'affaire. Et il dit mais ce truc qui est sorti là, c'était un truc vivant. Et ça se comportait comme un veau, comme c'est marqué dans les Tehillim, comme si on avait affaire à un taureau qui bouffe de l'herbe. Ce truc là, qui est sorti, ce veau d'or, il fonctionnerait taureau. Il était là en train de paître. Il y a une Gemara qui dit que quand Aaron a dit ça, c'est un lapsus. La langue à fourcher ou quelque chose comme ça. C'est la Gemara. Mais le Midrash ne dit pas ça. Le Midrash dit que Aaron disait, je ne savais pas comment me situer par rapport à ça. Et donc, ça m'a complètement dépassé. Et d'une certaine manière, c'est toi qui l'as rendu, ce veau quasiment extraordinaire, quasiment vivant, dit-il à Hachem. Donc, tout ça pour dire que on a des deux côtés, que ce soit pour le Mishkan ou pour le veau d'or, le phénomène d'une émergence de quelque chose qu'on n'attend pas du tout. D'un côté, c'est quasiment démoniaque, quoi, non ? Et puis de l'autre côté, c'est extraordinaire. Mais toutes les deux, tout ça, c'est presque comme si on avait les mêmes matériaux, et puis qui donnent deux choses complètement différentes. La capacité extraordinaire de Betzalel, le Ramban, il parle de cette capacité de Betzalel, mais il parle de la capacité de tout le peuple. Il fait une lecture un peu historique des choses en disant que ces juifs qui avaient, je ne peux dire les juifs, mais ces hébreux, qui ont vécu en Égypte, ils n'ont absolument aucune culture artistique. Ils n'en ont jamais eu, et s'ils en avaient eu, le temps passé à fabriquer du mortier, etc., ça les aurait complètement disqualifiés de toute manière. Donc il dit, il y a un miracle, c'est fait, que ces gens, tout à coup, ils sont devenus capables de tisser, de broder, de fabriquer des choses absolument extraordinaires. Oui, on a tissé des choses, des tissus avec deux motifs différents des deux côtés. Tisser, c'est pas de la broderie. C'était tissé, d'un côté il y avait un lion, et de l'autre côté il y avait une autre figure dans le tissage. Comment est-ce qu'ils savaient faire ça ? Comment est-ce que les femmes savaient travailler la laine sur la bête elle-même ? Le Ramban dit que ça, c'est quasiment une inspiration quasiment miraculeuse. La Maître d'Avar, lui, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça, enfin pas d'accord avec ça. Lui, la Maître d'Avar, il dit que ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils ont osé le faire. Ça leur est venu à l'esprit et ils ont osé le faire. Ils ont dit, oui, on va le faire. C'est pas le miracle n'est pas qu'ils aient pu le faire ou pas, mais qu'ils aient osé s'embarquer dans une chose pareille. On leur a dit, voilà le cahier des charges. Ok, on le fait. Ça, dit le mec d'abord, ça c'est ça le miracle. Alors c'est vrai que Betzalel, lui en plus, il était un grand sage, que ce soit de la connaissance, de la compréhension, etc. Et ce qui se passe, c'est que quand je regarde en même temps le Hegel d'un côté, le Vaudor d'un côté et le Mishkan, garde en même temps. Alors, on ne peut pas s'empêcher de se demander, enfin, de voir cette parenté qu'il y a finalement entre les deux. Alors, vous savez bien que Betzalel, ça se lit Betzel Kel, que mon cher Abeinu avait donné des ordres à Betzalel. Betzalel a repris Moshe et il lui a dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire autrement. Et Moshe lui a dit, ah ben oui, c'est juste, c'est ça que j'avais entendu. Alors tu devais être à l'ombre d'Hachem quand Hachem m'a parlé. Tu as entendu les choses directement et moi je me suis trompé. Ramban termine son exposé sur le sujet en citant la Gemara classique qui dit que Tzalel savait comment combiner les lettres avec lesquelles le ciel et la terre ont été créés. C'est-à-dire que en combinant les éléments du Mishkan, Betzalel répond en quelque sorte à des indications qui lui sont données concernant le cosmos en fait. Intuitivement, il connaît les secrets il est un fabricant enfin, ouais. Il fabrique des mondes, il fabrique en quelque sorte le monde. Le mot qui est utilisé pour décrire le savoir-faire de Betzalel, il utilise le mot Yada Betzalel, le tsaref et haotiot, shebahem nivra olam. Le tsaref, ça veut dire effectivement combiner, mettre ensemble. Mais le tsaref, ça veut aussi purifier au sens d'éliminer les scories. Purifier, le tsaref, c'est ce que font les orfèvres, etc. Donc il y a les deux choses. Savoir exactement ce qu'il fallait mettre, ce qu'il ne fallait pas mettre, éliminer les scories. C'est intéressant de voir qu'il y a cette idée d'éliminer les scories dans la construction du Mishkan. Qu'est-ce que c'est les scories dans la construction du Mishkan? C'est que dans cette construction du Mishkan, on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il fallait faire réellement. Moshe Rabbeinu, quand Hachem lui a ordonné de construire le Mishkan, Moshe Rabbeinu ne savait pas comment il fallait construire. Et Hachem lui a montré un Mishkan de feu dans le ciel. Moshe Rabbeinu a dit, mais comment tu veux que je fasse une chose pareille? Et le Midrash dit, on peut comparer ça, donc une parabole de nouveau pour dire quelque chose qu'on ne peut pas dire directement, un roi qui avait un vêtement tout à fait exceptionnel, sur lequel il y avait aussi des pierres précieuses qui étaient enchâssées, etc. Et il a dit à son serviteur, « Fais-moi la même chose. » Alors le serviteur a répondu, il a dit, « Majesté, comment serais-je capable de faire une chose pareille ?» Alors le roi lui a dit, « Moi, je reste ma gloire, en quelque sorte, avec mon vêtement. » Et toi, tu utilises les matériaux que tu as à ta disposition. Et le Midrash dit, ben, Moshe Rabbeinu a dit la même chose à Hachem. Et Hachem lui a dit, ben, tu feras ce que je te montre ici. Avec du bleu, avec de la pourpre, avec de l'écarlate, avec du lin fin. Si tu fais dans le monde d'en bas ce qui existe dans le monde d'en haut, alors lui a dit Hachem, j'abandonnerai mes conseillers qui se trouvent dans le monde d'en haut et je descendrai et je concentrerai ma présence dans le monde d'en bas. Si on avait voulu faire le Mishkan comme la copie de ce qui a été montré à Moshe Rabbeinu, alors, c'était vraiment impossible. Ça aurait été une imitation mécanique, etc. Et ça aurait rien donné. Le problème, c'est qu'il fallait faire le Mishkan avec des feux, ce qu'on a montré. Des feux, des quatre sortes de feux. Couleur bleue, rouge. Et donc, si on abandonne l'idée que ce que devait faire Betzalel, enfin mon cher Rabbeinu, c'était une copie exacte, une réplique de ce qui avait été vu, mais que ce qui a été dit à mon cher Rabbeinu, c'est non, pas du tout, tu vas faire avec tes moyens. Mais les moyens qu'il avait, ça ne permettait pas de faire la copie exacte de ce qui avait été vu. Ça voudrait dire improviser. Tu vas improviser avec tes moyens, avec les indications que j'ai données. J'ai donné des indications. Tu vas tenir compte des indications, et pour le reste, tu feras selon ton inspiration. Finalement, ça veut dire que Betzalel a été réduit à faire les choses telles qu'il les comprenait lui-même, personnellement. Alors on peut dire que le Mishkan est une improvisation, ça n'a pas vraiment l'air, parce que quand on lit toutes les indications qui sont données dans la Torah, on a l'impression que le cahier des charges est effectivement extrêmement précis et que ça ne laisse pas beaucoup de latitude. Mais en réalité, le Hamak Davar fait remarquer que il y a des petites différences entre les instructions qui ont été données initialement et ce qui a été fait. Quand on regarde de très près le travail que fait Hamak Davar, il y a des petites différences. Et donc ces petites différences, dit Hamak Davar, elles sont emblématiques, elles disent la vitalité de l'artiste, en fait, la capacité, la créativité de l'artiste, celui qui était Betzalel, à l'ombre d'Hachem. Et d'ailleurs, le Beth Amikdash que Shlomo HaMelech construira, lui non plus ne sera pas la copie du Mishkan. Et le deuxième Beth Amikdash ne sera pas la copie exacte du premier. Et le troisième non plus ne sera pas la copie du deuxième. Il faut le faire en fonction de ce que tu as vu, des indications que je t'ai données, mais c'est les combinaisons de lettres. C'est quelque chose d'original. Ça va demander de l'imagination. Alors ici, il y a peut-être quelque chose de peut-être discutable, qui pour l'instant me plaît assez. C'est que nous, on a l'impression que l'imagination, ça consiste, c'est une faculté que nous avons de former des images. Mais en réalité, c'est exactement le contraire. En réalité, l'imagination, c'est la capacité que nous avons de déformer ce que nous percevons. C'est principalement, justement, ce qui nous libère des images, qui nous permet de changer par rapport à elles. S'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas fusion de certaines images, fusion inespérée, inattendue de certaines images, il n'y a aucune imagination. Il n'y a pas d'acte d'imagination. Si l'image qui est présente ne m'amène pas à penser à une image qui serait absente. Si une image ne détermine pas en fait une abondance d'images, une explosion d'images inattendues, il n'y a aucune imagination. Grâce à l'imagination, les choses sont ouvertes. On prend ce qu'il y a comme étant allusif à ça. Je t'invite à faire quelque chose qui ressemble à ce que je t'ai montré. C'est la caractéristique de l'homme, être capable de cela. Donc là, on pourrait dire à partir des mêmes matériaux, le Mishkan et le Hegel et le Vaudor, ils diffèrent essentiellement par l'imagination. Il faut se rappeler que c'est assez curieux, le Betzalel qui a été choisi pour construire le Mishkan, il a un grand-père très connu. Son grand-père c'était Hur, le fils de Myriam, et Hur a été tué lorsqu'il a tenté de s'opposer à ceux qui voulaient qu'on construise quelque chose, qui voulaient que Aaron le construise, donc le veau d'or, ils l'ont tué. Donc il a résisté au peuple qui voulait son fétiche, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et Hachem a choisi comme constructeur du Mishkan son petit-fils. Celui qui avait le petit-fils de celui qui a son corps défendant, enfin, à sa vie, qui a payé de sa vie en quelque sorte. Son refus de laisser se faire une image sur le mode égyptien, sur le mode de l'Avodah Zarah. Aujourd'hui, nous aussi, nous imaginons le Beth Amikdash. Mais il faut se libérer des images perçues, en particulier des images de temples. Le Mishkan devait faire penser pour qu'Hachem réside dans le cœur des gens. Il fallait donc se libérer du Mishkan matériel, en quelque sorte. Atab Salmanecha, toi, Moshe, tu feras avec tes matériaux. Cette idée de faire penser, je vais dire encore celle-ci, terminée. Il y a un temps pour penser. Et le temps pour penser, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est justement ce temps pendant lequel on est détaché quasiment de toutes les contingences matérielles. Pas qu'il ne faut pas manger, etc. Mais il faut ne pas oublier que ça sert à penser. Et si la résultante du plaisir qu'on prend au Shabbat consiste essentiellement à dormir, il faut au moins, bref, sérieusement, pas office de penser. Et c'est ça, le Shabbat c'est fait pour penser, le Shabbat c'est détaché du monde matériel, c'est penser des choses impensables. Parce que le Shabbat c'est, qu'est-ce que c'est Me'en Olam Haba? De même que le Olam Haba, le monde à venir, nous n'avons aucune idée de ce qu'il sera, et qu'il ne faut pas essayer de se faire une idée, parce qu'on ne peut pas se faire une idée autre que celle qu'on est capable d'imaginer ici, et bon, c'est probablement trop réducteur. Il faut laisser libre cours, en quelque sorte, complètement à son imagination. C'est-à-dire penser des choses qui sont impensables en semaine, en quelque sorte. Le Shabbat, c'est ça, c'est ce temps, c'est ça la nécessité du Shabbat. Et c'est pour nous dire, en quelque sorte, que le Mishkan, on doit le construire dans un monde où il y a le Shabbat. C'est-à-dire, le Mishkan matériel, c'est extrêmement risqué. Parce que ce qui s'est passé avec le Mishkan, puis avec le Beth Amikdash, les raisons pour lesquelles ils ont été détruits, les Beth Amikdash, c'est parce qu'on les a pris comme des temples. C'est-à-dire qu'on a considéré qu'il y avait un endroit où il fallait payer sa cotisation à Hachem, et puis quand on avait payé la cotisation, on était libre de faire à l'extérieur du Beth Amikdash ce qu'on voulait. C'est ce que les Neviim reprochent aux Israël. Hachem dit, qu'est-ce que j'ai à faire de tout ce qu'on va porter au Beth Amikdash si à l'extérieur du Beth Amikdash vous vous conduisez comme des crapules? Alors Hachem a retiré le Beth Amikdash. Parce que c'est un piège. Surtout, vous n'imaginez pas que vous avez payé une cotisation qui vous donne des droits à faire n'importe quoi. En fait, la Torah, elle a très bien dit les choses. En fait, si on écoute, il n'y a absolument aucune ambiguïté. La Torah a dit, Ve'asu li migdash, d'abord, Ve'asu, c'est au pluriel. A priori, ça veut dire que tout le monde doit construire le migdash. Et où est-ce qu'on doit construire le migdash? Ve'shachanti betocham, je résiderai parmi eux. Les Chazal disent, Shachati Betocham, ça ne vient pas dire que le Mikdash serait au centre du camp d'Ebné Israël et qu'autour il y aurait un anneau constitué par les Kohanim, un autre par les Levim et un troisième par l'Ebné Israël, les autres qui sont ni Kohan, ni Kohen, ni Lévi. Ça veut, parce que ça c'est trivial, ça vient dire que ça doit être construit dans le cœur de chacun. Évidemment que le Mishkan qui sera construit dans votre cœur et dans le mien, pas le même. Ça ne peut pas être le même. Chacun va construire son Mikdash en fonction de ce qu'il est. Bien entendu, on a les mêmes indications. On a tous les mêmes indications. Le minimum, les points fixes en quelque sorte dans la construction. Les seuls points fixes. C'est ce que la Torah impose à chacun d'entre nous. Mais pour le reste, ça doit être personnel. Et donc il y a un risque de s'imaginer qu'on doit construire le même pour tout le monde, puisqu'il y en a un qui est construit matériellement. Mais celui qui est construit matériellement, il est là pour nous aider. Enfin, la Torah, elle dit, tu construis ça, mais c'est pas la fin, c'est pas la fin du travail. C'est, vous me construirez un Mikdash, c'est-à-dire ce Mishkan avec les, au centre, là, avec les tentures, avec tout ce qu'il y a, les crouvimes, etc. Mais pourquoi? Il y a un pourquoi. À quelle fin? C'est pas une fin en soi, le Mikdash. Le Mikdash, c'était quelque chose qui m'aide à construire mon Mikdash personnel. C'est celui-là que je dois construire. Comment on peut construire, comment rêver le construire, ça se fait le Shabbat. Shabbat. Shabbat.